Bonjour à tous. Alors pour introduire ce message, j'aimerais qu'on commence par juste une petite lecture dans 1 Pierre, la première épître de Pierre, les deux premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc vous voyez ici que Pierre écrit donc à des chrétiens qui sont dispersés à cause de la persécution qu'ils subissent de la part des Romains. Il faut se rappeler que du temps de l'empereur Néron lui avait pris une folie et il avait fait mettre le feu à la ville de Rome. Et alors il avait accusé les chrétiens d'avoir fait cela. Et comme déjà les chrétiens n'étaient pas très aimés, eh bien la persécution a commencé et elle s'est répandue dans toute la Méditerranée. Ça a commencé à Rome, mais ça a été dans toute la Méditerranée. Et donc c'est pour ça qu'on parle ici du Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Ça se trouve en Turquie. Alors Pierre écrit cette lettre donc pour les encourager, ne pas perdre espoir et surtout rester fidèle et être de bons témoignages irréprochables parmi ce monde païen. Nous aussi, bien que nous ne subissons pas la persécution, en ce moment nous nous sentons un peu dispersés, éparpillés, parce que nous ne pouvons pas encore nous réunir aujourd'hui. Cela m'attriste de devoir parler devant une salle vide. Et je suis autant que vous, désireux et impatient que nous puissions bientôt vous accueillir dans cette salle. Cependant, nous avons fait le choix d'attendre que la situation et surtout les normes extrêmement contraignantes du CNS s'assouplissent. Il nous fallait choisir entre ce que notre cœur désirait, notre désir de vous revoir réunis ici, et puis la sagesse qui nous disait « Est-ce bien raisonnable ?» Nous avons écouté la sagesse, c'est du moins notre conviction. Nous avons pensé aux personnes à risque qui font partie de notre communauté, de par leur âge ou leurs problèmes de santé. Alors, je voudrais préciser ici que je ne veux pas profiter de cette tribune pour justifier notre décision. Mais cette situation, eh bien, cela m'a fait réfléchir. Et donc, cette situation nous ouvre la porte à une réflexion d'ordre plus général. La question, c'est comment le chrétien doit-il se comporter face aux règles imposées par les autorités? Peut-être certains objecteront, nous sommes-nous obligés de céder à toutes ces consignes qu'il est vrai, nous paraissent quelque peu exagérées. D'autres diront, nous ne faisons pas partie de ce monde, nous sommes des citoyens du ciel, des étrangers sur cette terre. Et en effet, c'est ce qu'il est écrit dans la parole. Mais je vais vous prendre un exemple. Vous allez prendre votre voiture, vous allez la garer dans un endroit où le stationnement est interdit et un agent va vous demander de dégager et vous allez lui dire « Je ne fais pas partie de votre monde » et on va voir comment il va réagir. Il est vrai que nous ne faisons pas partie de ce monde dans le sens que nous ne voulons pas imiter tout ce qu'il y a de mauvais dans ce monde. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes quand même des citoyens. Citoyens dans ce monde. Et que nous avons donc, nous sommes soumis à des devoirs, à des droits, mais aussi à des devoirs. Alors c'est aussi oublier que la parole de Dieu nous recommande, nous ordonne même, de nous soumettre aux autorités. Je vais prendre deux versets qui sont, je pense, très clairs. Par exemple, nous lisons dans Romains, chapitre 13, au verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc moi, je pensais que c'était moi, en votant sur mon bulletin de vote, donc qui mettait en place les autorités. Eh bien, malgré cela, c'est Dieu qui met en place les autorités. Et même si souvent nous sommes sceptiques quant au choix que Dieu fait, nous devons toujours nous rappeler que Dieu sait ce qu'il fait. Et lorsqu'on parle des grands dirigeants de ce monde, pour moi, il n'y a qu'un dirigeant de ce monde, c'est le Seigneur. Un autre exemple que nous pouvons trouver dans Tite, au chapitre 3, au verset 1. Paul dit à son élève Tite, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. » Bon, jusque-là, c'est clair. Voilà deux exemples, deux versets qui sont très clairs. Nous devons nous soumettre, nous devons obéir. Alors, jusque-là, c'était clair. Maintenant, ça va un peu se compliquer. En effet, comment pouvons-nous concilier ce qui nous est ordonné dans ces deux exemples que nous venons de lire avec d'autres passages de la parole de Dieu? Par exemple, Paul dit dans Galates, au chapitre 1, au verset 10, « Et maintenant, est-ce la flatteur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Alors il faut remettre cela dans le contexte. Paul dit qu'il a reçu l'évangile, non pas des hommes, mais il l'a reçu de Dieu. Et que pour lui, il n'est pas question qu'il fasse des compromis avec l'évangile. Et donc, si même ça ne plaît pas à certains, eh bien lui, Paul, est chargé de transmettre l'évangile véritable qui lui a été transmis par le Seigneur. Donc déjà ici, nous pouvons voir que, c'est vrai, nous devons être soumis aux autorités, mais pas de compromis avec le véritable évangile. Alors nous avons aussi ce passage dans Actes, au chapitre 5, les versets 27, 28, 29. Nous avons Pierre et les apôtres qui prêchent, donc sur les places publiques, qui prêchent l'évangile. Et à un moment donné, Pierre et les apôtres sont amenés devant les autorités pour répondre de leurs actes. Au verset 27, nous lisons, « Après qu'ils les eurent amenés, donc les autorités religieuses, après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, c'est-à-dire Jésus. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber le sang de cet homme, Jésus, bien sûr, sur nous. Au verset 29, la réponse de Pierre et les apôtres est très courte, très brève. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, vous voyez que là, les choses se compliquent un peu. Hein. Les deux premiers versets que nous avons lus, ce n'était pas compliqué. Il fallait se soumettre, obéir. Maintenant, les choses deviennent plus compliquées. D'une part, on nous demande de nous soumettre aux autorités. Et d'un autre côté, Pierre nous dit qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors comment se sortir de... comment concilier tout cela? Bien sûr, cela mériterait qu'on s'attarde beaucoup plus longtemps, mais nous ne ferons que survoler cette question. Peut-être devrions-nous analyser chaque situation dans son contexte. Si je prends le cas de Pierre, il n'avait à sa disposition que sa voix, sa bouche, pour parler du Seigneur Jésus et de son évangile. S'il avait obéi aux autorités, comme on lui demandait, en se taisant, comment la bonne nouvelle aurait-elle pu continuer à se répandre? Et donc, je peux comprendre que Pierre préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et donc, il se rebelle contre les instructions données par les autorités religieuses. Par contre, aujourd'hui, grâce à Dieu, nous disposons d'un grand nombre de moyens techniques qui sont devant moi et qui nous permettent de continuer de parler de l'amour du Seigneur Jésus et de son œuvre salvatrice sur la croix de Golgotha. Dans le passage que nous avons lu dans Galates chapitre 1, Paul se pose cette question. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? J'ai choisi ce verset expressément, volontairement. Est-ce que j'obéis pour faire plaisir, pour qu'on me laisse tranquille. En tant que chrétien, si nous nous conformons aux autorités des hommes, cela ne doit pas être pour plaire, dans le sens de séduire, mais pour être un bon témoignage devant ceux qui cherchent la moindre occasion pour nous dénigrer. Et croyez-moi, il y en a. En France, il y a toujours encore le souvenir de ce qui s'est passé dans l'église de Mulhouse, où il y a eu un grand rassemblement. Ce n'était pas la faute des chrétiens de Mulhouse, parce qu'on ne connaissait encore rien du coronavirus. Mais en tout cas, ça a été un foyer qui malheureusement a répandu les germes dans une grande partie de la France. Eh bien, encore aujourd'hui, eh bien, les Français ont toujours une aversion pour cette Église. Et c'est bien dommage. En tant que chrétiens, ne devons-nous pas leur montrer à tous ceux qui cherchent à nous dénigrer que nous savons être disciplinés, que nous savons faire preuve de sagesse, de discernement, de solidarité, et que nous sommes aussi des citoyens respectueux de la loi. Dans 1 Pierre au chapitre 3, nous lisons. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Donc si nous avons à nous défendre, ça doit être avec douceur et respect. Devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, donc ça veut dire que vous êtes respectueux des lois, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Ne donnons pas des arguments à ceux qui nous critiquent à la moindre occasion. Voilà donc pourquoi il me semble que dans la mesure où cela ne nous oblige pas à enfreindre la loi de Dieu, nous devrions faire notre possible pour nous soumettre aux autorités. Encore une fois, à condition que cela ne nous oblige pas à enfreindre la loi de Dieu. Alors, nous sommes donc encore ici devant une salle vide, nous sommes encore disséminés, chacun dans notre maison. Et cela m'a fait penser à une image. Par la grâce de Dieu, j'ai un jardin, des arbres, des oiseaux qui viennent se poser sur les branches. Il y en a un peu là, dans cet arbre-là, dans cela. Ils sont un peu éparpillés et ils se parlent, ils communiquent entre eux. Qu'est-ce qu'ils se disent? Je ne sais pas, je ne connais pas le langage des oiseaux, mais ce serait intéressant de savoir un peu ce qu'ils se disent. Et parfois nous sommes assis dans le jardin et nous voyons qu'ils se rassemblent tous sur un seul arbre. Et là, il y a un concert qui est magnifique à entendre. Alors, c'est vrai que comme nous, en ce moment, nous sommes un peu éparpillés, chacun sur notre branche, bien que, avec les nouvelles conditions, nous pouvons accueillir dans notre nid plus de personnes. Mais un jour, le Seigneur va nous rassembler sur un même arbre. Et cela m'a fait penser à la parabole de la graine de Sénévé, dans Matthieu, au chapitre 13. Le grain de Sénévé. Le grain de Sénévé, c'est un grain de moutarde qui est minuscule. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de Sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Cette graine minuscule qui ne semble pas digne d'intérêt, cela représente Jésus. En effet, rappelons-nous ce que nous pouvons lire dans Ésaïe 53 qui prophétise sur Jésus. Et il dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer notre regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et pourtant, c'est à partir de cette petite graine que le Seigneur va bâtir son Église. La graine mise en terre représente Jésus qui, en mourant, va nous donner la vie et va faire éclore son Église, cet arbre qui représente son Église. Donc l'arbre dont nous parlons, eh bien, c'est l'Église de Christ qui croit, qui pousse peut-être trop lentement pour certains, mais de plus en plus vite, pour devenir un arbre qui peut monter jusqu'à 4 mètres de haut. Alors cette parabole nous rappelle qu'à partir de quelque chose de minuscule, le Seigneur peut faire de grandes choses. Lorsque cet arbre sera arrivé à maturité, et ça c'est le Seigneur qui en décidera le moment, il pourra accueillir tous les oiseaux qui représentent bien sûr tous ceux qui auront accepté Christ comme sauveur. J'espère que nous pourrons à nouveau nous réunir dans cette salle, je n'en sais rien. Je ne sais pas quand, je ne sais pas dans quelles conditions. Mais je sais une chose, c'est que le plan du Seigneur se réalisera. Et que le plan du Seigneur, c'est qu'un jour, il réunira son Église afin que nous puissions, dans un puissant concert ensemble, chanter ses louanges à notre bien-aimé Sauveur. En attendant, je me réjouis de voir et d'entendre le message de l'Évangile se répandre au moyen d'Internet, des réseaux sociaux. Et j'espère que ces chants, ces prédications, ces cultes toucheront un maximum de personnes et que cela leur donnera le désir d'un jour de se joindre à nous. Alors, dans 1 Timothée, Paul rappelle une chose très importante. Nous devons prier pour les autorités. Oui, nous devons prier pour les autorités, même pour celles pour qui nous n'avons pas voté. Alors nous allons lire 1 Timothée 2, les 8 premiers versets. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors pour conclure, nous allons faire ce qu'il est demandé et nous allons prier pour nos autorités. Seigneur Jésus, nous voulons d'abord te remercier d'avoir abandonné pour un temps ta condition divine pour venir jusqu'à nous dans la personne d'un humble fils de charpentier. Merci aussi parce que tu as consenti à devenir une graine minuscule, insignifiante. Merci parce que tu t'es laissé mettre en terre, afin que de toi puisse sortir de cette terre ton Église. Merci parce que tu continues à en prendre soin et à la faire grandir. Seigneur, nous voulons te remettre les autorités qui dirigent ce monde. Éclaire-les de ta sagesse afin que ton nom soit glorifié. Touche leur cœur afin qu'ils puissent réaliser la tristesse que nous endurons de ne pas pouvoir nous rencontrer et ouvrir nos églises et pouvoir recommencer à te louer et à t'adorer comme tu le mérites dans ta maison. Seigneur, nous voulons aussi te remercier parce que malgré toutes ces restrictions, nous n'avons pas été réduits au silence. Mais grâce aux moyens que tu as mis à notre disposition, ton évangile a pu continuer à être proclamé à travers toutes les nations. Seigneur, continue à faire grandir cet arbre qui est ton Église. Protège-le et bénis-le. Et nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.